François Bayrou, le président du Modem, lance sa campagne des régionales. Quel avenir pour le mouvement démocrate? Doit-il refuser des accords locaux avec le PS? Rendez-vous avec François Bayrou dans les questions du mercredi.
Une émission présentée par Jean-François Aquili avec Françoise Fressos du Monde, ce soir à 19h20.
France Inter présente l'armée du crime de Robert Guédiguian en vidéo. Dans Paris occupé par les Allemands, Missak Manoukian prend la tête d'un groupe de jeunes combattants pour participer à la libération de la France. Dans la clandestinité, au péril de leur vie, ils deviennent des héros. Un film coup de poing. Retrouvez l'armée du crime dans les émissions de France Inter.
France Inter, partenaire des concerts de l'Afrique du Sud au Midem du 24 au 27 janvier. Au programme, plus de 25 artistes avec Wouter Kellerman, Vusi Malasela, Notambi, Lyra, Tandiswa Mazwai, The Parlotones. Et retrouvez en direct l'Afrique enchantée avec Soro Solo et Vladimir Cagnolari le dimanche 24 à 17h. Renseignements franceinter.com.
France Inter, la différence.
Il est 15h04, là-bas si j'y suis, Daniel Mermet.
Ça y est. Je l'ai eu. Je l'ai reçu, là, il était dans ma boîte aux lettres quand je suis rentré du travail. C'est le bon, le fameux bon pour la vaccination. Merci, merci Roselyne. Merci beaucoup.
Nous ne voulons pas partir en retraite à 62 ans. Nous avons commencé à travailler à 15 ans. Hors de question. Déjà, travailler en usine, non, hors de question. Faire du boulot de merde? Non, pas d'accord. Salut.
Bonsoir. Nous vous rappelons qu'il existe un repère à Nice. Et oui, dans notre bonne ville de Christian Estrosi, grâce ou à cause de sa présence, entre autres. Et c'est le troisième mercredi de chaque mois, Lou Pastrouille, place du Palais de Justice, à 19h. Et donc, nous vous attendrons nombreux pour échanger sur tout ce qui se passe en France et à Nice et dans le monde. À bientôt. Au revoir.
Monsieur Eric Wirth nous dit, à propos du double salaire de Monsieur Proglio, la chose suivante. La France n'est pas un pays qui paye si bien que ça ses dirigeants, même si les sommes peuvent sembler très importantes. Je souhaite mettre en lumière deux choses. Primo, Monsieur Proglio ne fait pas partie des dirigeants de la France. Il ne dirige que deux entreprises. À moins que l'on ne nous dise pas tout. Deuxio, concernant des sommes qui peuvent sembler très importantes, 2 millions d'euros annuels, cela représente 157 SMIC annuels. Je vous laisse prendre la mesure pour que vous puissiez étalonner vos échelles de valeur. Merci.
Salut Daniel, il m'est venu une idée comme ça, là. Je ne me rappelle plus ce qui s'est passé à propos de l'EHPAD. Là. Je sais qu'il y avait un candidat qui avait été proposé, mais ça n'avait pas été retenu. Mais le poste est-il toujours libre? Parce que je pensais à un candidat, moi, il y a un gars qui s'appelle, je crois, Henri Proglio, je crois. Peut-être qu'il pourrait convenir parce que, d'abord, il doit avoir un petit peu de temps de libre, il n'a pas trop de boulot, et puis ça lui permettrait un peu d'arrondir un peu ses fins de mois, quoi, voilà.
Bonjour, Dalita de Montpellier. Je viens d'entendre, comme sans doute beaucoup d'auditeurs, que M. Proglio, le nouveau PDG d'EDF, recevrait environ 1 600 000 euros comme traitement pour sa qualité de président d'EDF avec 40% d'augmentation par rapport au salaire du président précédent, plus de 400 000 euros comme président du conseil d'administration de Veolia. Je suis scandalisée. Je souhaite former une association de défense du service public gérée par l'EPIC EDF, ayant pour première action d'attaquer la nomination de Proglio à la tête d'EDF, en invoquant notamment le conflit d'intérêts, puisque EDF et Veolia sont en concurrence sur certains marchés. Petits actionnaires, agents d'EDF et usagers, nous avons tous intérêt à agir dans ce sens. C'est pourquoi, si certains d'entre vous sont intéressés, je vous propose de m'envoyer un SMS au 06 85 12 56 49.
Bonjour. Je suis missionné pour l'hôpital Saint-Landry, à Pétionville, en Haïti. C'est juste au-dessus de Port-au-Prince, dans le prolongement de la Delma. Saint-Landry travaille, Saint-Landry opère depuis le début de la catastrophe. Aujourd'hui, 19 janvier, les stocks de matériel sont à bout. Les opérations d'amputation se font souvent sans anesthésie. Dire qu'il manque de tout est faible. Mais Saint-Landry tient bon. J'ai enregistré leurs demandes aux affaires étrangères, des demandes que je reçois et qu'ils me formulent par SMS. Ils espèrent. Saint-Landry, hôpital haïtien, espère que la France pourra les aider, car c'est leur seul contact.
Voilà, des nouvelles d'Haïti sur le répondeur de la base. J'y suis. Merci à tous et toutes pour ces messages. La catastrophe est amplifiée, faut-il le dire et le répéter, par la misère d'Haïti et la pauvreté. Mais cette pauvreté, j'ai eu l'occasion de le dire déjà, et bien je vais le répéter, cette pauvreté a une histoire. Haïti a été rendu pauvre. La pénurie alimentaire, le manque d'infrastructures, la déforestation, tout ça n'a évidemment rien de naturel. Haïti a été rendu pauvre par les grandes puissances, dont les États-Unis, dont la Grande-Bretagne, dont la France, sans oublier le FMI et la Banque mondiale. Le FMI a annoncé un nouveau prêt de 100 millions de dollars à Haïti. Ça semble généreux et bienvenu, mais ce prêt s'ajoute à la dette d'Haïti, c'est-à-dire à 165 millions de dollars de dette dont ce pays est porteur. Et donc, quand on parle d'annulation, on évoque des réductions, certaines réductions de cette dette. Et il faut rappeler que c'est à travers ces prêts que le FMI et la Banque mondiale, depuis des années, imposent les politiques néolibérales qui sont les siennes à travers le monde, avec les conséquences que l'on sait. Les conditions portent sur un tas de domaines, mais ça peut être le refus des augmentations de salaire, la suppression des barrières douanières, etc. Il faut rappeler aussi, et c'est le moment, en 1804, Haïti déclarait son indépendance, un peuple d'esclaves se libérait de la domination de la France, et plus tard, en 1825, la France a menacé de reprendre Haïti avec une menace d'embargo. Et Haïti a dû accepter alors la promesse de verser à la France 150 millions de francs or à titre de réparation aux colons français propriétaires d'esclaves. C'est-à-dire que les esclaves affranchis ont dû indemniser leur maître pour leur liberté. C'est quand même des choses qui sont importantes à savoir actuellement, parce que toute la couverture qu'on a, on est en train de vivre une sorte de grand orgasme compassionnel, mais il faut s'efforcer, nous qui sommes à distance, au moins de contextualiser, de remettre ce drame dans une perspective historique. Et pour payer cette dette à ses maîtres, eh bien, Haïti a emprunté auprès de banques françaises et américaines. En 1900, Haïti consacrait 80% de son budget au remboursement de sa dette. Et la déforestation d'Haïti est liée au paiement de la dette, parce qu'en vendant du bois, Haïti pouvait payer sa dette. En 1947, Haïti n'avait remboursé que 60% de sa dette, et en 2003, Titide, vous vous souvenez, Titide, le président Aristide, a demandé à la France la restitution de cette somme qu'il évaluait en 2003 à 21 milliards de dollars. Quelques mois plus tard, il était renversé par un coup d'État. Et puis il y a les politiques d'ajustement structurel imposées par le FMI, dont je parlais dans les années 90. En 1995, le FMI a forcé Haïti à réduire son droit de douane sur le riz, alors que jusque-là, Haïti était exportateur de riz. Eh bien, la moralité, aujourd'hui, c'est que selon un rapport qui a été publié en 2008, En Haïti aujourd'hui, 3 assiettes de riz sur 4 proviennent des États-Unis d'Amérique. Il y a des aides alimentaires, comme celle de USAID, par exemple, mais qui sont des aides alimentaires, c'est-à-dire qu'on amène des aliments, mais ce n'est pas des aides au développement de l'agriculture, c'est-à-dire qu'on amène les poissons, mais pas les cannes à pêche. Ce qui fait que et ces fonds vont au soutien de l'industrie agroalimentaire américaine. Donc on le voit, il y a une histoire à cette pauvreté qui accroît et qui amplifie encore les malheurs de ce pays, et il faut militer actuellement pour la suppression de la dette d'Haïti. Il y a nombre d'ONG et de mouvements qui vont dans ce sens, et il faut les soutenir et se renseigner sur ce qui se passe dans ce pays. Aujourd'hui, là-bas, si j'y suis, on finit notre voyage en Inde, au Kerala et au Chhattisgarh. C'est une balade un peu plus légère, quoi, disons, aujourd'hui, que les sujets qu'on vous a présentés aujourd'hui, avec beaucoup de musique. Vous avez adoré ces musiques de l'Inde trouvées par Raphaël. Donc voilà, c'est une balade aujourd'hui jusqu'à 16h dans la Bassie. J'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bassie. J'y suis au 01 56 40 37 37.
À propos de l'invasion américaine qui se déroule en Haïti sous le couvert de l'aide humanitaire, je recommande l'analyse de Claude Ribbe sur le site legrandsoir.info. Et concernant les États-Unis, j'ajouterai ceci, la Somalie ne leur a pas suffi, ils en veulent une deuxième tout près de chez eux, et le gouvernement français d'étouffer lui-même les protestations qu'il a émises contre cette invasion, et nos éditorialistes de gloser une énième fois sur cette bête immonde, l'anti-américanisme français. Comme le disait l'adage romain, ce que Jupiter veut perdre, il les rend fous. Au revoir.
Allô, salut Daniel, salut les AMG. Et ben, un petit message, parce que ce matin j'ai entendu les infos sur l'antenne, comme quoi ils allaient peut-être réussir à réouvrir les banques d'ici la fin de la semaine à Haïti. C'est quand même une sacrée bonne nouvelle, hein, pour les Haïtiens qui sont dans la merde plus que jusqu'au cou. Enfin voilà. Bonne chance à tous et à plus tard, faut sauver ses fesses. Ciao.
Ouais, salut Daniel, salut à tous les AMG. Je t'appelle parce que là il est 7h42, je suis dans ma voiture, je vais au boulot et j'ai écouté le Flash Info de France Inter et c'est assez intéressant. Il passe la moitié de l'édition sur Haïti et puis ensuite on a les petites news quotidiennes. Alors on est informé que Villepin va prendre le café à Bondy. Mais il n'a absolument rien proposé, il n'a absolument rien fait à part serrer la paluche à quelques élus. Et tous les journalistes en sont tout un pataquès. Et finalement, on clôture juste avant les sorties ciné sur la grève organisée demain dans les services publics. Et évidemment, que nous dit la journaliste ? Eh ben, pensez à vous organiser pour pas être embêté demain. Voilà. Et puis les thèmes de la manif, ça, pourquoi il y a grève, ça, hein, on s'en fout. Voilà. Salut Daniel.
Un enseignant de Haute-Vienne, Gilles Lehmann, s'est vu signifier par son inspection académique une suspension immédiate de ses fonctions pour avoir annoncé qu'il ne respecterait pas totalement le protocole de passation des évaluations nationales CM2 et n'en ferait pas remonter les résultats. Il est convoqué le 22 janvier dans le cadre d'une procédure disciplinaire intentée à son encontre. Une telle suspension immédiate n'est appliquée normalement qu'en cas de procédure d'urgence quand les enfants sont en danger. Le réseau des enseignants du primaire en résistance, signataire de l'appel des 200 mètres contre les évaluations nationales, dénonce cette décision autoritaire et illégale. Nous exigeons le rétablissement immédiat de Gilles Lehmann dans ses fonctions et demandons au ministre Luc Chatel d'intervenir pour que cesse cette chasse grotesque aux enseignants désobéisseurs qui ont par ailleurs le soutien de la principale fédération des parents d'élèves. Nous appelons tous ceux qui se sentent concernés à venir au rassemblement de soutien vendredi 22 janvier à partir de 16h30 à l'inspection académique de Limoges.
Pays enchanté des dieux des petits rien. Loin de la frénésie de Bombay ou de la fournaise de Calcutta, le quartier historique de Fort Cochin est bercé par une brise qui semble avoir été patinée par les siècles.
sur la jetée, se balancent de l'aube à la nuit les filets géants installés au XIVe siècle par les marins chinois que des grappes de pêcheurs relèvent comme s'ils sonnaient l'Angélus. À pied ou en rikishu, on se perd dans le lacis des ruelles ombrées de palmiers où de gigantesques flamboyants signalent de vieilles demeures coloniales et d'antiques... ornées d'absoulés jaunes. Ici voisine églises, temples et mosquées aux couleurs pastel. Une halte s'impose à la ravissante synagogue bleue, bâtie en 1568 et pavée de céramique de canton. À quelques pas de là, au Matancheri Palace, des fresques inspirées du Mahabharata mettent en scène Ganesh, Krishna et Vishnu. Ouvert à de multiples cultures, le Kerala l'est aussi aux différentes religions, dans un esprit de tolérance unique en Inde. Ainsi, lors de la partition de 1947, la province n'a pas sombré, comme le reste du pays, dans des massacres entre communautés. Un charme fou se dégage des vieilles bâtisses aux murs patinés, autant d'entrepôts chargés d'effluves, de cardamome, de poivre et de gingembre. Certaines ont cédé place à des boutiques d'antiquités qui empilent pêle-mêle boîtes à épices, coffres et portes anciennes, statuettes, portraits de famille et clichés sépia.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la Bassie J'y suis avec Guy Vanctil, balade dans l'Inde mystérieuse.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors c'est intéressant parce que les visiteurs sont visiblement des hindous, mais il y a aussi des musulmans, à en juger par les femmes qui portent le hijab, qui portent le foulard. Et puis, il y a des occidentaux, des gens avec des physiques venus des États-Unis ou d'Europe. Et vraiment, le monde entier se croise dans cette toute petite synagogue qui est la synagogue Pardesi. Pardesi, on est à Cochin, ici, au sud-ouest de l'Inde, sur la côte Malabar. Cochin est un haut lieu du commerce, du poivre, etc. Et il y avait là une communauté juive. Il y avait là parce que la communauté juive est en train de disparaître. Il ne reste plus que quelques personnes très âgées, et leur nombre est insuffisant pour faire la prière. Il faut une quantité minimum de 10 hommes minimum pour que le culte ait lieu. Or, il n'y a plus 10 hommes. Dans cette communauté, il y a 3-4 personnes encore. Et bientôt, l'histoire des Juifs ici sera terminée. Enfin, la présence des Juifs sera terminée. Il y a des Juifs de Cochin qui vivent en Israël. Ailleurs, sans doute, évidemment, dans le monde. Mais ici, il n'y en a plus. Et c'est une histoire qui finit, une longue histoire, qui les a vus confrontés aux Portugais, qui les a vus protégés par le Maharaja, qui les a vus prospérer avec les Hollandais. Venant d'autres endroits du monde, les Juifs ont participé à la prospérité de la ville avec les Hollandais, prospérité due au commerce, notamment au commerce des épices et du poivre sur cette côte. Voilà, et l'histoire finit comme ça, avec ce lieu magnifique, avec les fameux carrelages bleus qui sont dans tous les guides touristiques et qui sont des peintures de canton, nous dit-on, et puis au-dessus de nous, des lustres effectivement magnifiques venus de Murano. Une
une petite balade nez au vent pour finir ce voyage en Inde. Vous avez compris, on est à Cochin, dans le Kerala. C'est une ville magnifique, le centre, la vieille ville, est absolument superbe. Et puis dans ce quartier, devenu touristique, il y a cette synagogue touchante, magnifique, dans ce quartier très touristique, où l'une des curiosités, si on veut, c'est la disparition de la communauté juive de Cochin. Il y avait là une communauté juive qui a toute une histoire superbe, et voilà, ils sont partis, un grand nombre en Israël ou ailleurs, et puis le temps passe, et maintenant ils ne sont plus qu'une dizaine. On va rencontrer une dame qui s'appelle Sarah Cohen, qui est une des dernières de cette communauté, des dernières personnes de cette communauté, encore six femmes et quatre hommes dans cette communauté juive. Et puis ensuite, on ira se balader à nouveau dans le Chhattisgarh. On a tellement discuté, parlé autour de ce drame terrible qui est le conflit avec la guérilla, qu'on a complètement oublié de vous dire que c'était un très très bel endroit, le Chhattisgarh. C'est peut-être pas tellement le moment d'aller s'y balader, encore que, pourquoi pas, dans la partie, enfin, peut-être dans le sud c'est un petit peu chaud, mais dans le reste de cet état, c'est magnifique. Bref, balade en Inde, toujours, on avait commencé par dire l'Inde est émotion forte, et ça c'est garanti à chaque fois, émotion forte dans tous les sens, y compris l'émotion intellectuelle, les militants qu'on a rencontrés, les lutteurs sociaux, il y a une énergie indéniable dans ce pays, une énergie qui va dans tous les sens. Et on part, si vous voulez, pour cette dernière balade, avec une phrase de Binayak Sen qu'on a rencontré hier, ce pédiatre militant des droits de l'homme qui a été accusé de connivence avec la guérilla et qui a fait 2 ans de prison pour cela, mais il est sorti de prison sous caution avec grâce à la au soutien international, notamment de 22 prix Nobel qui ont signé une pétition pour le soutenir. Et il a une phrase de Binayak Sen qui est « Being neutral is our biggest crime ». Être neutre est notre plus grand crime. C'est là-bas si j'y suis, c'est jusqu'à 16h. Balade en Inde.
Satanjita mudanjita nikunjita padanjalajal anjalita manju kadagam Satanjita mudanjita nikunjita padanjalajal anjalita manju kadagam Padanjali trikanjana mananjana masanjana patamjanana pandana kadam Katam barusimam paravasam paramamam budagadam bhagavidam bhagagadam Chidam budimanim budagridam pujaravim parachidam paranadam
On est dans un drôle d'endroit. Ici, c'est une petite boutique dans le quartier juif de la ville de Cochin, sauf que des juifs, il n'y en a plus. Il n'y a plus que la dame qui est là, ou presque, elle va nous expliquer. Et si bien que c'est une attraction un peu touristique, cette dame, dans sa boutique, où elle vend des broderies, des petites robes, des kippas décorées, ouais, brodées. Voilà, les visiteurs se succèdent, les journalistes se succèdent pour parler quelques instants avec Sarah, une des dernières juives de Cochin. Voilà, c'est une petite boutique. Et derrière, il y a l'appartement où vit Sarah. C'est tout tranquille, mais très modeste. Pourquoi est-ce que les gens viennent tous vous voir?
Why everybody's coming? Because I'm the closest person here when you pass by, you see me?
Eh, parce que je suis la plus proche. Quand on va vers la synagogue, on passe devant chez moi.
Yeah. Always I'm seated here sewing.
Je suis toujours assise ici, à coudre.
Vous cousez, je vois qu'il y a une machine à coudre.
La synagogue est toute près, les gens vont là-bas.
Alors, qui vient vous voir?
How could I say so? All new people come to see me.
C'est que des gens que je ne connais pas.
All people won't come, they know me.
Les vieux, ils ne viennent pas parce qu'eux, ils me connaissent déjà.
Ouais.
All the places people come to see me.
De partout.
They text me, they say I'm very well known.
Et du coup,
I'm
je suis très connu partout dans le monde.
Mais vous êtes une star internationale, mondiale. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est la communauté juive de Cochin. Parlez-nous un petit peu de cette communauté juive. Qu'est-ce qu'elle devient, cette communauté?
All when we started going to Israel, all the people left Cochin.
On n'est plus très nombreux maintenant, parce que tout le monde, ils sont presque tous partis en Israël.
Combien vous restez aujourd'hui? Combien de juifs restent à Cochin?
There are five houses.
Now only 10 members, the 7 family, 6 women and 4 men.
Il n'y a plus que 5 maisons, 10 personnes, 6 femmes et 4 hommes.
À quoi ça ressemblait dans votre jeunesse, la communauté?
C'était très joyeux. On allait ensemble à la synagogue pour
Friday,
y prier.
Saturdays.
Mais pour Shabbat, vendredi, samedi.
Comment vous vous entendiez avec les musulmans et avec les autres religions, les hindous?
Very happy. These people are very friendly with us. They are Muslims.
Tous ces gens sont très gentils avec moi. On n'a jamais eu à se battre. On n'a jamais eu une dispute et pourtant ce sont des musulmans. On a toujours eu de bonnes relations.
We have never had no police case.
Jamais aucun procès
juridique.
Nous sommes très amigos. Nous assistons au mariage des musulmans. Les musulmans viennent ici. Les garçons musulmans viennent apprendre l'hébreu. Il fait tout le travail à la synagogue. Il se fait payer pour ça. Il sait tout. Il sait comment faire.
Ah, vous êtes musulman?
You Muslim? My name is Taha Ibrahim.
Je suis musulman, je m'appelle Tata Ibrahim.
Et Tata Ibrahim, vous faites quoi exactement, vous?
I'm coming to chant them the outside the football.
Depuis que j'étais enfant, j'ai travaillé ici, sur le trottoir. Il fait tout à la synagogue.
And the good connection.
C'est lui qui confectionne ces kippas.
C'est lui le jeune garçon qui était dans la rue. Et qui était un petit garçon de la rue, qu'elle a adopté. Celui qui coule et qui paille et qui donne un coup de main à la synagogue et qui est comme son fils adoptif s'appelle Tata Ibrahim et il est tout ce qu'il y a de musulman.
Muslim, sure.
Il est musulman.
Il est musulman.
Yep, I will read little Hebrew.
Je peux lire un peu hébreu maintenant.
Like both Shabbat Yom Tov.
See, this aunt is he writes. And
La fin d'un monde, effectivement, la fin d'une communauté, c'est touchant quand même à Cochin. Cette communauté juive est là depuis très longtemps à Cochin et dans d'autres endroits de l'Inde. Et ce qui est intéressant pour ce qui concerne cette région de Cochin, c'est que les juifs qui parlent malayalam, vous allez entendre Sarah Cohen, elle parle la langue du Kerala, le malayalam, c'est sa langue maternelle. Et la communauté était divisée en castes, c'est-à-dire avait copié, s'était inspiré
des structures sociales de l'Inde et de l'hindouisme. Il y a des études passionnantes qui ont été faites sur cette communauté au moment où elle disparaît. Elle disparaît parce qu'une partie majoritaire est montée, comme on dit, en Israël. Mais Sarah Cohen, elle, est encore là. Vous êtes encore quelques familles ici, mais vous ne pouvez plus prier. Il n'y a plus de culte ici à la synagogue.
No, but we get prayers because we are more Jewish people are in Anaklam. So when they need them, we call them.
Quand nous avons besoin de prières, besoin de culte, de pratique de culte, il y a beaucoup de Juifs à Ernakulam, donc on les fait venir ici.
Festivals, they come. Shabbat, because they don't travel, you know. We don't need them. And we need them, we call them, they come.
Quand nous avons besoin d'eux pour les fêtes, ils viennent. Pour le Shabbat, ils ne viennent pas parce qu'ils ne voyagent pas ce jour-là. Oui. Mais nous n'avons pas besoin d'eux non plus. Quand nous avons besoin d'eux, nous les appelons, ils viennent.
They all went to say, it's my husband who gave the permission to go.
C'est mon mari qui a donné l'autorisation aux Juifs de partir en Israël.
Ah,
mais
d'accord.
He was the lawyer.
Yeah, il était un avocat.
Yeah, I'm a shohet, and he knows the prayers, everything by heart.
Il était avocat, il était prêtre, il connaissait par cœur les prières.
Lui, il n'a pas voulu migrer en Israël, il n'a pas voulu faire l'aliya.
We went to Israel in 72.
En 72,
my sisters there,
on est allé. Mes frères sont
all
là, mes sœurs sont là.
They're
tout
still
le monde
calling
est là.
Me.
Il m'appelle toujours, il me demande toujours de les rejoindre là-bas.
Because I'm alone here.
Parce que
They're
je suis seule ici.
Go, but I don't want to
Ils
go.
Veulent que j'y aille, mais je n'ai pas envie d'y aller.
I love this place. I love the people.
J'adore cet endroit, j'adore les gens ici.
Malayalam.
Malayalam.
You speak Malayalam?
Huh? We are taught Malayalam first.
C'est la première langue que nous apprenons.
We cannot be without talking Malayalam, without knowing Malayalam, because all the shopkeepers.
Nous sommes bien obligés de parler Malayalam.
Hebrew, some said good, but Vaikum, fast Vaikum.
Je peux lire l'hébreu, mais je ne peux pas parler.
Il n'y a pas de professeur. Master
il n'y Il n'y avait pas de professeur.
Padipikan master il
Oui. Je n'ai pas pu apprendre, je peux lire par contre.
Israël est dans le stand quand il est dans le stand.
Israël est l'air coréen.
Israël est pour le stand quand il est dans le stand.
My God,
je vais rester ici jusqu'à la fin de mes jours.
Mais là vous parlez en malayalam, alors on parle en malayalam, on parle en anglais.
Je parle hindi aussi.
Yeah.
Ok, Sarah. Thank you.
Thank you.
Okay, thank you.
Take care.
Bye-bye. Thank you very much.
Bye-bye.
Thank you. Hiya, hiya. Ah, hiya, hiya. Bolo, bolo. Kuch to bolo.
Dis-moi, où on est là?
At the moment, we are in Alapi. This place is famous all over the world for its backwaters, Alapi. Right now, we are
on
in a boat.
Alapi sur un bateau, et c'est un endroit qui est connu dans le monde entier pour ses canaux.
Alors, c'est vrai que c'est assez extraordinaire, le décor. C'est un petit bateau à moteur. On voulait un bateau sans moteur, mais on n'a pas réussi. Et devant nous, alors la lumière est absolument magnifique. Le jour descend peu à peu, c'est une ambiance tropicale, une chaleur idéale, des oiseaux qui frôlent l'eau, c'est magnifique, des oiseaux noirs, des oiseaux blancs, là une île devant nous avec de très grands cocotiers, une seule maison sur l'île, c'est absolument paradisiaque, là il y a quand même des bateaux avec des rames, il y a une dame qui a réussi à trouver quelqu'un pour ramer pour elle. Là, c'est vraiment les touristes, dans toute leur splendeur, qui font ramer les autres, hein, qui sont vachement heureux, qui s'éclatent bien et qui nous font signe, avec le monsieur qui rame, qui est très content lui aussi, qui nous fait signe aussi.
Mais alors, le début de la promenade, c'est un peu mal parti, parce qu'à l'endroit où on a embarqué, il y avait, parmi les bouteilles de plastique prises dans les jacinthes d'eau, il y avait le cadavre d'un chien. Le chien crevé, quoi.
Allez, heya, heya. Ah, heya, heya.
Alors, c'est un petit peu dommage, ça. Un petit peu endommagé le début de cette promenade idyllique.
Alors que notre guide touristique nous avait promis la Venise de l'Inde.
Ouais, je pense qu'il faudrait parfois, enfin, avoir quelques doutes envers les guides touristiques. Peut-être, peut-être. Je ne veux pas être trop, trop critique.
Jusqu'au cou d'un homme. Ici, deux hommes.
D'accord. Mais on m'a dit qu'il y avait une technique pour pêcher les poissons qui consiste à se mettre dans l'eau jusqu'au cou. On ramasse les poissons entre ses orteils et on les jette comme ça, en levant le pied, on les jette dans un panier. Est-ce que c'est vrai? Parce que moi, je l'ai lu dans un guide.
Oui, ça se pratique. C'est par là qu'on pêche comme ça, de cette manière-là, juste à côté de nous.
Ils arrivent à attraper des gros poissons entre leurs orteils?
Les petits poissons aussi, et quelquefois les gros poissons aussi, ils arrivent à attraper comme ça. Ils nomment différents types de poissons qu'ils peuvent attraper comme ça.
C'est extraordinaire ça. Non, je ne comprends toujours pas. Comment on pêche avec les orteils en s'enfonçant dans l'eau jusqu'au cou? Alors explique, comment tu fais?
കപ്പ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് തേങ്ങ തേങ്ങ കെട്ടിയിട്ട് അവനെ ഇടും. എന്നിട്ട് ഈ നിലത്ത് മുട്ടിയല്ലേ ഇടുന്നത്, ഒരു നാല് ഈ ക്യാപ്പിട്ടേ ഇടത്തോളം വെള്ളത്തിലോട്ട്. അപ്പം ഇത് നിലത്ത് മുട്ടാ കിടക്കും. അപ്പം ഈ മീൻ ചെന്ന് പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ പൊങ്ങ് നേരെ താഴും. താഴുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വളർത്തേക്കുമ്പോൾ അറിയാം അത് അവിടുത്തെ
മീനുണ്ട്. On n'a rien compris, ou très peu de Français ont compris ce qui vient d'être dit, mais quelle beauté. Tu peux traduire?
La manière dont il a expliqué la pêche, comme ça se pratique localement.
Il prend un tronc de bananier. Ils
prennent un bout de tronc de bananier.
Oui.
Ils ne mettent pas la pâte tout de suite, ils mettent une petite noix de coco. Ils mettent ça, ils plongent ça dans l'eau, et le poisson vient attraper la petite noix de coco.
Ah! Donc d'accord, le petit tronc de bananier qui flotte à la surface de l'eau sert de bouchon. Chez nous, en français, ça s'appelle un bouchon. Donc quand le poisson mord, le bouchon, c'est-à-dire le morceau de bananier, descend. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ses orteils?
Avec les deux, il se sert du pied aussi pour faire ça, et des mains aussi.
Ça, tu sais le faire?
Dans le passé, il était pêcheur, mais maintenant qu'il y a beaucoup de touristes, il peut gagner mieux en faisant le travail qu'il fait actuellement.
Encore un paradis pourri. Oh, heureusement, il reste le bruit des portables et des moteurs. Voilà. Des des bouteilles en plastique qui flottent à la surface de l'eau.
Comme des
quoi,
c'est
musicien. Qu'est-ce que c'est drôle. Oh là. Là, on a vu vraiment, le long de la route, trois gars en train de tituber. Et c'est les musiciens. Voilà. Les musiciens, ils sont fatigués, hein.
C'est une scène excellente.
C'est une scène absolument extraordinaire. Deux musiciens bourrés et un gamin qui n'est pas lui, qui se fout d'eux. Et
ils sont accroupis en train d'essayer de préparer les instruments pour nous faire une petite représentation des beautés.
À côté, il y a une jeune femme et un gamin. La jeune femme, elle se marre à moitié. Et les gars, ils en tiennent une sévère. Voilà, vous avez tout compris. On est vers Bijapur et au bord de la route, on a vu ces musiciens et on s'est arrêté quelques instants. Ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit de spécifiquement indien. Ça pourrait se passer n'importe où, en Irlande, au Portugal ou en Auvergne, mais là, c'est en Inde.
Là, elle va prendre un bâton, la dame.
Ouais, attends, ça va pas se passer comme ça. À mon avis, il y a un contentieux dans ce ménage.
Elle est allée chercher un gourdin. Elle a pété la barrière des voisins.
Voilà, maintenant, elle vient avec son gourdin.
Il dit qu'il joue pour la déesse, pour Jemata, donc elle ne doit pas l'arrêter.
Pourquoi il a tapé cette femme, alors?
Apokyomara.
Elle est un peu fatiguée aussi, la dame, je crois.
Ouais. C'est pas bien de voir.
Le matin.
Il dit que c'est elle qui est alcoolique, elle boit tout le temps et elle insulte tous les hommes.
Et c'est le mec qui dit ça, il titube, il tient à peine debout.
Il dit, moi, je n'ai rien bu, elle a bu.
On se calme, hein, on se calme.
Appelez pipi, arrête.
On se calme.
Pipi,
arrête.
On est les serviteurs de la déesse.
La déesse, elle m'a dit paix. Voilà. La paix.
Oui,
mais il ne faut pas taper sur les femmes.
Elle m'a insulté, c'est pourquoi je l'ai poussé.
Oui, mais il faut être compréhensif. C'est samedi, on ne travaille pas, on est fatigué.
Et la dame, elle commence à danser et à chanter derrière, toute seule.
Voilà, elle veut plus les tuer.
Voilà. Bravo! Vous constituez l'orchestre, les gars. Mais vous, vous avez votre chanteuse, vous êtes le musicien. Les gars, voilà, c'est formidable.
Elle a lâché son gourdin.
Voilà, grâce au blanc, c'est la paix.
Et la paix dans les ménages.
Voilà.
Très très free, hein. C'est très free jazz. Ça s'appelle partir en live. En vrille, quoi.
Et tout ça dans un petit village de la fin fond de la brousse.
On comprend pourquoi la guérilla Maui s'est installée par là.
Le chauffeur dit vaut mieux qu'on y aille. Regardez, oh, oh, elle embrasse Pasma.
Voilà, elle est contente. Hein,
bon, bah, les gars, on va vous laisser. Hein. Bonne fin de journée. Namasté. Namasté. Ok, bye bye.
Ok.
Voilà.
Ils disent qu'ils habitent ici, dans ce coin, donc si jamais on veut les écouter encore une fois.
Il faut noter le nom du village, mais si on a. Si jamais on a un mariage, un enterrement, quelque chose. Ah, c'est du free, hein, c'est du vrai free.
Namasté.
Ah, que vamos, Tom?
Is there a village there or just a few houses?
Yeah, it's a hamlet.
C'est un petit hameau qui est là. Au milieu des arbres, des grands arbres qui sont espacés les uns des autres, quelques vaches au milieu, petite maison en terre avec un toit en tuiles, et on voit un petit potager et la famille là qui est à côté en train de travailler son petit lopin de terre sous un beau soleil. On entend les oiseaux qui chantent, les chèvres loin. C'est vraiment l'Inde rurale, l'Inde des campagnes, loin, loin, loin du bling bling de Bombay ou...
Hamlet. Ah.
J'ai dû cavaler pour sauver mon manteau qui allait se faire bouffer par une vache sacrée. C'est dommage quand même. Petite interruption.
Il y a trois vaches magnifiques, magnifiques, caparaçonnées de tissu clinquant, doré, splendide. Quand je dis que c'est des vaches, en fait, c'est des garçons.
C'est une grande maison en bois, fermée, avec une porte entrouverte devant laquelle les gens qui passent, pour la plupart,
font un salut religieux. C'est le temple des serpents.
Le dieu ici est le serpent. C'est un temple dédié aux serpents.
Et là, si on n'en était pas convaincu, on a toute la bordure du mur qui est constituée de sculptures de serpents qui représentent des cobras. Est-ce que vous n'êtes pas embêté par les serpents?
Plenty of snakes. We are all friends with the snakes.
Nous, on n'a pas peur. Il y en a plein. On les attrape et on les mange. Ouais, ils sont beaux.
Ah, ils sont vraiment. C'est bien la décroissance. Hein. On a toujours un peu d'avance à la base si j'y suis. Mais là, on en a vraiment beaucoup. On en a vraiment beaucoup parce qu'on est arrivé au pays de la décroissance. Tout le monde en rêve. Là, voilà, par exemple, là, au bord de la route, eh ben, les gens sont en train de se chauffer avec quoi? Avec des morceaux de carton, des simples morceaux de bois. Là, qu'est-ce qu'on a? Aussi, des gens qui sont très peu de lumière dans cette ville. Là, on voit des gens qui sont en train, avec des vieux engins, en train de récupérer des pièces pour réparer les voitures. Très peu de voitures, de moins en moins. À partir de la tombée de la nuit, plus de circulation. Là, juste une lampe. Et encore!
Ampoule basse consommation.
Oh, ampoule basse consommation. Ici, c'est la basse consommation.
De tout.
De tout, de tout, de tout. Et les gens sont bien, sont heureux, sont souriants.
Même les armes que portent les gardes frontières, ou en tout cas les checkpoints, sont des vieilles pétoires sorties dans ces eaux.
Des armes de récupération. Voilà, c'est vraiment la décroissance totale. Et c'est merveilleux.
En plus, dans le noir.
Voilà, là, par exemple, pas de bitume. Les ordures, mais pourquoi les faire des brûleries d'ordures, des tachos qui polluent? On les laisse là sur place. Et puis c'est parfait. Alors là, c'est le pan. Alors là, il faut quand même... C'est quand même assez costaud. C'est une toute petite boutique avec une loupiote avec des feuilles qui sèchent sur un fil. Et les gars qui sont là, qui attendent leur panne.
Comme on attend son demi au bistrot, quoi.
Ouais. Qui crachouille un petit peu en attendant le panne, qui mâchouille le panne. Et qui se demande qui sont ces gens et qu'est-ce que c'est que cette langue. Et qui se dit, c'est des Anglais babou.
Ah,
Anglais babou. C'est rigolo, ça. Hein. Oui, des babous.
Il est en train de servir les autres, là, c'est ça?
Non, il prépare nos
pannes. Il faut qu'il nous montre comment il fait aussi.
Ce qu'on appelle sweet pan, mitha pan, des pannes sucrées en fait.
Ouh là là! Il a sorti deux feuilles avec du caca dessus.
avec de la chaux, ça c'est des noix d'arec, hein. Tout là ça.
C'est un peu comme des noix de muscade, ça ressemble.
Et puis quoi encore? Ça c'est quoi?
Ça c'est de l'anis.
C'est quoi en
ça plus? C'est noix de coco, copra.
Ça c'est quoi rouge?
Catri.
C'est les confits de papaye.
Ah, qu'est-ce qui sent bon comme ça? Je sais pas quand est-ce que ça sent bon.
Ça c'est quoi?
Ça c'est des pétales de rose.
Ah, c'est ça qui sent bon, de la purée de pétales de rose. La confiture de pétales de rose quoi.
Oui, c'est ça.
Qui est très épaisse, très noire.
Il met un petit paquet de chacun sur la feuille qui est posée sur la table.
Là, il met quoi? Et ça, c'est quoi?
C'est du sucré.
Et maintenant, je te la roule. Je te la plie en quatre. Je te mets quoi autour? Un petit élastique?
Ah non, un clou de girofle pour le tenir.
Ah, un clou de girofle. Ça, c'est pour la dame? Mais après, comment tu fais?
Tu le mets tout entier.
Oh, 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 dans le fond? Comment je fais, les gars? Il se marre.
Idar, Idar, Idar.
Voilà, il explique.
Voilà.
One side. This side or this side?
Yes, side.
Right side.
Right side.
Not left side.
Left side, vous
pouvez
mettre.
Okay. Si tu veux. Tu choisis le côté.
Left.
Left.
Madame,
let's go.
Bravo, hein? C'est pas l'air con. Je fais marrer tout le monde. C'est un numéro de clown absolument formidable. Maintenant, j'ai ce gros machin dans la mâchoire.
La bajou.
Une grosse chic. Mais c'est tout sain, quoi. C'est plein de trucs sucrés, de parfums. C'est bon, hein?
Very good.
Good. On est marrant, hein? C'était le numéro de Angrèze Babou. Merci à tous, merci à Padma Natarajan, montage Catherine Pinto, c'était un reportage avec Guy Ventil, merci à Bijou, Sarah Cohen, Arundhita Roy, Pascal Lemoigne, Souda Baradwaj, Binaik et Ilina Sen, merci à Arias Babou, Shafir Rahman, Himanshu Kumar, Pierre Prakash, Thomas Isaac, Julien Bouissou, ainsi qu'au professeur Padma Kumar, au brigadier Ponois, à Subranchu Choudhary, Cédric Gouverneur et à Jai Sani. Merci, toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Ronan Mahé et Defar Guérid. C'est Coy Nguyen et Raphaël Moutard qui ont réalisé cette série d'émissions. Modeste et géniale, assistée d'Agnès Lebot. Et Catherine attend vos messages au numéro suivant, 01 56 40 37 37.
France 2.
Dans l'œil du viseur, le chasseur.
Ton métier a des règles, le nôtre aussi.
Ah ouais?
Qu'est-ce que tu attends pour lui dire ton vrai métier? T'as peur?
Je tue pour de l'argent, Lorraine.
Maintenant, il va falloir payer, et au prix fort.
À votre place, je parierais pas là-dessus.
Le chasseur devient la proie. La traque est lancée, ce soir à 20h35 sur France 2.
France Inter et la Colline Théâtre National présentent du 22 janvier au 17 février La Pierre de Marius von Mayenburg, mise en scène par Bernard Sobel avec notamment Anne Alvaro et Edith Scob.
Savez-vous où vous êtes ici? Je suis ici chez moi. Vous êtes dans la maison de mon grand-père.
Retrouvez Bernard Sobel le 29 janvier à 5:00 dans Studio Théâtre de Laure Adler.
16h45 sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour la basse. J'y suis. Les infos, Angélique Boiselle.
La secousse d'une magnitude de 6,1 qui a secoué Haïti ce midi est la plus forte réplique enregistrée depuis le séisme du 12 janvier dernier. Son épicentre est situé à 59 km de Port-au-Prince et elle a terrorisé les survivants du premier tremblement de terre. On ne dispose toujours d'aucune information sur d'éventuels dégâts ou victimes. Ces répliques et les conditions sanitaires sur place inquiètent les parents français qui étaient en cours de procédure pour adopter de petits orphelins haïtiens. Ils continuent de faire pression sur le gouvernement pour accélérer les choses. À l'Assemblée nationale cet après-midi, le ministre des Affaires étrangères a fait un point de la situation. Il y a exactement 904 dossiers d'adoption enregistrés par nos services, a dit Bernard Kouchner. 276 sont au stade du jugement. Ceux-là seront rapatriés en France au plus vite. Pour les autres, il annonce que l'on va s'en occuper un par un avec toute l'attention nécessaire. Les procédures d'adoption via les organismes officiels seront privilégiées par rapport aux adoptions individuelles, a ajouté le ministre. Un nouveau bilan des victimes françaises a par ailleurs été rendu public. Le Quai d'Orsay annonce que 17 Français ont péri dans la catastrophe et il y a 16 disparus. À noter que le Canada paie un très lourd tribut, 13 morts et 543 personnes portées disparues. Les deux jeunes accidentés cette nuit à Voipy en Moselle sont toujours dans un état critique. Un troisième homme est mort. Ils étaient tous trois juchés sur un scooter, sans casque, sans éclairage, et ont fui à l'arrivée de la police. Il n'y aurait pas eu de course-poursuite, selon les témoignages des policiers. Pas de choc non plus entre les deux véhicules, selon les premières constatations, mais une enquête est ouverte. Une nouvelle voix dénonce le salaire d'Henri Proglio, le patron de Veolia, celle de la députée UMP Marianne Montchamp, une proche de Dominique de Villepin. Elle regrette le message brouillé envoyé par Nicolas Sarkozy aux Français. D'un côté, il annonce, dit-elle, une moralisation des bonus. De l'autre, il tolère le cumul des fonctions de ce patron. Monsieur Proglio toucherait un revenu annuel de 2 millions d'euros. Une partie de la part de Veolia, l'autre de la part d'EDF. La colère de Jean-Luc Mélenchon. Sur son blog, le président du parti de gauche qualifie de capitulation la proposition de Martine Aubry d'accepter un recul de l'âge légal de la retraite à 61 ou 62 ans en échange de concessions. Martine Aubry a porté un mauvais coup au mouvement social et à toute la gauche, dit-il. Elle nous a tiré une balle dans le pied. Il roulait à 130 km/h. La police a surpris un conducteur en train de changer de place avec son passager, tout en roulant donc sur l'autoroute A10. Il s'agissait d'un père et de son fils. Ce dernier roulait sans permis. Il aurait pris peur en apercevant la voiture de police. Les deux hommes vont être poursuivis.
Stop au virus de la grippe.
La grippe A H1N1 n'est pas une maladie anodine. Elle peut avoir des conséquences graves. Nous pouvons tous faire quelque chose pour en limiter la propagation. Contre la grippe, la meilleure protection pour soi, pour son entourage, pour les plus fragiles, c'est la vaccination. Pour toute information, connectez-vous sur pandemie-grippale.gouv.fr. Les gestes de chacun font la santé de tous. C'était un message du ministère de la Santé et de l'INPES.
La différence.
16h04, c'est l'heure de retrouver Frédéric Lodéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Angélique. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Tout à l'heure, à 16h30, je recevrai la magnifique violoniste et pianiste Julia Fischer. Elle sera dans notre studio, elle est déjà dans la maison, donc on en est sûr. Et pour commencer, jeunesse, déjà, avec une étude de concert d'Alexandre Goedicke, un compositeur russe d'origine allemande, interprété à la trompette par Romain Leleu, qui a été révélation dans la catégorie soliste instrumentale ou instrumentiste, comme vous voudrez, des victoires de la musique classique de l'année dernière. Donc un phénomène de la trompette avec son ami Julien Lepape. Ça déménage, ça va vite, et puis c'est précis. Thank you. Et atterrissage tout en finesse, Alexandre Gödicke, étude de concert opus 43 par Romain Leleu, jeune trompettiste tout à fait brillant, vous l'avez entendu, et le non moins brillant Julien Lepape au piano. Et puis voici maintenant Des Archers, avec un ensemble emmené par Sarah Nemtanou, c'est une virtuose qui est devenue violon solo de l'Orchestre National de France, toute jeune, elle avait une vingtaine d'années, et elle a imposé sa présence simplement par son grand talent, sa maîtrise, et puis son sourire, quelquefois un peu de fermeté. Enfin voilà, c'est une belle personne et un beau tempérament. Alors elle joue avec quelques jeunes collègues aussi. Le quintet de Franz Schubert, je vous propose un extrait du Scherzo. Thank you.